toutes et à tous, bienvenue dans cette séance du séminaire « Écrire les modernités arabes ». Nous avons le plaisir cette fois-ci d'accueillir Karima Dirèche. Donc Karima Dirèche qui est directrice de recherche au CNRS. Elle est basée au... à Telem, donc qui est un laboratoire de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Elle a une vieille complicité avec l'ENS, puisque je pense qu'elle y est venue dès... L'ENS est arrivé à Lyon en 2006. L'ENS est arrivé à Lyon en 2000. Karima y était déjà en 2006 pour le colloque sur l'Algérie que nous avions organisé avec Gilbert Meynier et Gilles Boyer, ici présent. Elle était ici pour ses travaux qui portaient sur la société kabyle à travers le regard et les archives des missionnaires des Pères Blancs, qu'elle a pas mal étudié, donc aux archives du Prolaire à Aix-en-Provence. Tu me corriges hein, si je me trompe. Nous nous sommes retrouvés en 2008 et nous avons travaillé ensemble très étroitement, donc de 2008 à 2012, autour d'un colloque à Essaouira qui a donné lieu à une publication qui s'appelle « La bienvenue et l'adieu » en trois gros volumes. Donc un colloque sur la question des migrations juives et musulmanes au Maghreb. Et l'un des lointains produits de ce colloque, c'est qu'elle est co-commissaire avec Benjamin Stora d'une exposition qui ouvrira en avril prochain, le 4 avril prochain, au Musée national de l'histoire des migrations, sur juifs et musulmans de l'Empire à l'Hexagone.
Peut-être que juifs, musulmans et la France de l'Empire à l'Hexagone.
Voilà. Donc une exposition qui vient compléter aussi l'exposition actuelle sur Juifs d'Orient à l'Institut du Monde Arabe. Elle a poursuivi ses travaux et obtenu son habilitation à diriger une recherche autour de la question de l'historiographie algérienne post-coloniale, post-indépendance, et la coexistence ou la confrontation de plusieurs récits historiques. Elle a été directrice de l'IRMC à Tunis, par intérim du centre Jacques Berck à Rabat.
2012 et 2010.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une vue... qui est l'une des rares personnes en France à avoir une vue de la recherche qui se fait sur le Maghreb contemporain. Et vous voyez que... c'est pas à vous que je parlais des UNIF, donc des unités de recherche françaises à l'étranger. Donc, IRMC à Tunis, Centre Jacques Berck à Rabat. Il n'y a pas d'unité française, de recherche française en Algérie, mais l'IRMC a une forme de compétence sur les recherches qui peuvent se mener en Algérie. Alors je crois qu'elle va nous expliquer, elle est ici pour nous expliquer, déjà pour nous présenter cet ouvrage, donc l'Algérie au présent, entre...
Résistance et changement.
Entre résistance et changement. Donc elle va nous présenter le processus éditorial qui a conduit à la mise en place d'une équipe qui a rédigé cet état des lieux de l'Algérie. Et le processus avait démarré un peu avant le Hirak, qu'elle a rencontré en chemin. Je dirais presque de la même façon qu'en 2008, on avait démarré ce colloque d'Essaouira. Et au moment de sa publication, nous étions en 2011 sur les printemps arabes. Donc il y a des moments où le travail qu'on fait se rencontre l'actualité de façon très forte. Et je lui cède la parole en la remerciant à nouveau d'être venue à l'ENS.
Merci Frédéric, merci Mohamed de m'avoir invité. Donc dans le cadre de votre séminaire d'écrire des modernités arabes, je suis très contente d'être ici. Alors, je j'avais envie de faire un PowerPoint, etc. Et sincèrement, je crois que je suis à ma 22e intervention de l'année, je suis un peu là-haut, donc on va... Je dis ça parce que je viens de remplir mon rapport d'évaluation, en fait, de mon bilan d'activité de l'année, parce qu'on fait ça quand on est au CNRS chaque année. Et là, je me dis, ah oui, quand même, j'avais pas réalisé. Donc, on va le faire un peu à l'ancienne, mais en fait, c'est plus une discussion que je vais mener avec vous, donc dans le cadre de ce séminaire. Et le prétexte, en fait, c'est ce livre, ce gros livre, comme je dis, qui est très, très pratique quand on veut caler un meuble ou un truc comme ça, parce qu'il est bien gros, c'est l'épaisseur voulue, idéale. Cet ouvrage, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, qui a voulu être en fait un état des lieux général d'un pays, l'Algérie, qui est sans doute un des pays les moins étudiés, des pays de la rive sud de la Méditerranée. Ce pays a été trop souvent abordé par d'abord le gigantisme de son territoire, parce que c'est un des plus grands pays d'Afrique, abordé par son économie rentière, parce que c'est un pays, la rente pétrolière est quand même à 87%, les revenus de ce pays sont à 87% constitués par la rente pétrolière, et puis souvent abordé ce pays par un régime politique opaque, compliqué, et longtemps l'Algérie, et elle l'est encore au souhait, longtemps ce pays a été considéré en fait d'une certaine façon comme une énigme. C'est étonnant parce que c'est quand même un pays qui est supposé être très très proche de la France. L'Algérie a été le joyau de l'empire colonial français. La guerre coloniale a été très longue, a marqué aussi bien la société algérienne que la société française. Et pourtant, c'est un pays comme d'une certaine façon, dès qu'on l'aborde par les sciences sociales et par les sciences humaines, c'est un pays qui semble être un peu hors champ. Comme s'il y avait eu une espèce de spécificité algérienne, un modèle algérien, bien évidemment, qui ne s'applique qu'à lui-même et qui n'aurait pas à se soumettre à l'analyse critique et à la déconstruction des catégories théoriques. Donc ça, c'était l'idée de départ. Quand on travaille sur l'Algérie, surtout moi qui me suis beaucoup promenée en fait dans les pays du Maghreb, c'est pas un pays qui a beaucoup attiré en fait l'attention des regards des SHS, quand on compare surtout avec le Maroc et la Tunisie, qui ont plus polarisé l'intérêt en fait de ces sciences-là. Et moi j'avais été frappée, en fait, une des motivations de ce livre que j'ai dirigé, c'est j'avais fait ce constat qui était celui de l'asymétrie de connaissances dont on dispose sur l'Algérie, alors que les pays voisins sont quand même des pays et des sociétés qui excitent l'attention, la curiosité, où la recherche aussi bien locale qu'internationale est quand même présente, consistante, intéressante. Et à côté, effectivement, l'Algérie, elle semble rebutée et elle décourage souvent, je dirais, l'entreprise de la recherche. Et on expliquera pourquoi, parce qu'il y a des raisons tout à fait objectives pour ça. Alors, pour moi, c'était ce constat de l'asymétrie, et c'est vrai que quand je vous l'expose à vous comme ça, c'est vrai que c'est quand même très très contradictoire, très paradoxal, parce qu'on avait dit que c'est un pays géant de la rive sud de la Méditerranée, le plus peuplé des pays du Maghreb, c'est une grande puissance diplomatique régionale, maghrébine, méditerranéenne et africaine, et quand on cherche un peu, surtout quand on travaille sur du contemporain, sur de la sociologie politique, sur de l'histoire contemporaine, sur de l'anthropologie, etc., la récolte, elle est maigre, en fait. Elle n'est pas très, très importante. Alors, sur cette histoire de spécificité, je rappelle justement qu'on avait un sociologue algérien qui s'appelle Abdallah Mazouni, qui avait écrit en 1968, donc ça fait un petit moment déjà, plus de 50 ans, un ouvrage qui s'appelle « Culture et enseignement en Algérie et au Maghreb ». Et à cette époque-là, à ce moment-là, dans son introduction, il ironisait un petit peu sur cette histoire de spécificité. Il disait, alors je vous lis ça rapidement, parce que je trouve que ça rentre en écho absolu avec ce que je viens de dire, le constat qu'on peut faire sur nos temps contemporains, il disait « Pour avoir été très souvent répété, il est entendu une bonne fois pour toutes qu'il y a une spécificité algérienne et que tout ou presque est spécifique en Algérie. L'homme, les problèmes, les solutions, le socialisme, la culture, le cinéma, le théâtre, la musique et même les oranges. » Il y a toute une histoire sur l'orange algérienne par rapport à l'orange marocaine et tunisienne. Et on arrive à placer l'adjectif spécifique ou le substantif spécificité aux vertus magiques, aux riches significations, quasiment partout, en guise d'explication universelle. Pour varier un peu, on emploie à l'occasion l'adverbe spécifiquement. Le lecteur ou les interlocuteurs ne sont pas bêtes. Ils comprendront, et s'ils ne comprennent pas, ils n'oseraient pas le laisser paraître. Et ces quelques lignes sont assez intéressantes, surtout quand on aborde les questions de sociologie politique ou les questions de gouvernance politique sur cette question de spécificité du modèle algérien. C'est quand même quelque chose... Alors, ce travail, il a voulu en fait un peu secouer un peu tout ça. Et proposer une espèce de mise en perspective de la recherche en sciences sociales et humaines en Algérie, en offrant une photographie, une photographie analytique, bien évidemment, et réflexive, des dynamiques qui ont marqué l'Algérie de ces 30 dernières années. Un peu dans ce qui a été fait dans d'autres ouvrages. La Syrie au présent avec Baudouin Dupré, l'Égypte au présent avec Vincent Battestier, François Hirton, le Maroc au présent. Donc on a comme ça en fait des ouvrages. Ce modèle-là, moi je le trouve intéressant parce que pour le coup ça permet une perspective pluridisciplinaire à plusieurs auteurs justement de participer à l'aventure éditoriale et effectivement de proposer un savoir un peu réactualisé, un peu réoxygéné qui permette de mieux décrypter en fait ces sociétés-là. Bien évidemment, ce livre, vous avez vu, il est très très gros, il y a 65 auteurs, voilà, avec 9 thématiques, je vous épargne les thématiques, et en fait, les thématiques, elles ont été tricotées d'une certaine façon par une question transversale, qui est la question de la résistance et du changement, parce que c'est ce qui, sans aucun doute, caractérise la société algérienne, qui est engagée dans un processus de transformation très accéléré, même si cette société est encore marquée par les stigmates de la violence donc, des années 90, si vous êtes un peu familier de l'histoire de l'Algérie contemporaine, voilà, ce moment terrible des années 90 qu'on appelle la guerre civile algérienne ou alors la décennie noire, donc c'est toujours un peu compliqué parce que les formules sont toujours un peu malheureuses, mais bon, et qui a plongé la société algérienne dans une surenchère de violence qui a laissé la société algérienne, je dirais quasiment encore aujourd'hui, en post-sidération traumatique. Mais il n'empêche que cette société bouge considérablement et que le Hirak algérien donc, de février 2019 est une des expressions justement de cette transformation profonde donc, de la société algérienne. Alors cet ouvrage est paru 2 mois après donc, le mouvement de la contestation populaire. Et alors là, c'était extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas véritablement à ça. Et pour le coup, comme le Hirak a sidéré un certain nombre d'observateurs extérieurs qui se disaient on n'a plus rien à attendre de cette société, parce que la société algérienne, justement, parce qu'elle a connu le traumatisme des années 90, est en situation de traumatisme politique, donc elle est totalement dépolitisée, puis elle est rentrée dans un processus quasiment néolibéral de cette économie, donc cette population est surtout intéressée par la consommation, par le fait de vivre, etc. Et en fait, on voit qu'il se passe une espèce de mobilisation citoyenne extraordinairement inventive et inédite, et qui vient complètement faire bouger ces représentations qu'on avait de cette Algérie d'avant 2019. Et cet ouvrage, pour le coup, est arrivé vraiment au moment où il fallait, parce que là, donc c'est plus cette soixantaine de contributions permettait de mieux comprendre en fait ce qui était en train de se passer et permettait de donner quelques clés d'explication justement sur les forces motrices qui étaient en train de s'exprimer dans le Hirak pendant plus d'un an. Et donc ça c'est formidable parce qu'on se dit que quand même notre travail il sert un petit peu à quelque chose. parce que l'Algérie est d'une certaine façon un peu une énigme dans la mesure où elle était totalement absente des révolutions de 2011. Toute la rive sud de la Méditerranée était enclenchée dans ces grandes protestations collectives et l'Algérie, rien du tout, atonie totale, n'était absolument pas dans les radars donc ces contestations. Et là, on s'aperçoit que finalement, l'Algérie, comme le Soudan d'ailleurs, montre en fait une réplique de ces contestations de 2011. Alors peut-être, j'aimerais juste revenir un petit peu peut-être sur ces représentations donc, de cette Algérie, telle qu'on l'avait en tête. Donc une Algérie qui, on va dire, alors évidemment, un territoire riche, bien évidemment, en ressources naturelles, mais une économie très très fragile, parce qu'elle est entièrement dépendante de ces hydrocarbures. Un territoire gigantesque, mais très inégalement aménagé. Vous savez, la bordure littorale de l'Algérie, c'est quasiment 90% de la population algérienne. Et ce littoral, c'est là où sont concentrées toutes les activités productrices de richesses et d'emplois. Et que le Sud, en fait, tel qu'il est actuellement, il est juste un espace en fait, d'exploitation des ressources naturelles. Un régime politique en fin de règne, alors on pourrait le dire, ça c'était avant 2019, mais on peut le dire encore aujourd'hui en fait, non, parce que le Hirak n'a pas eu le dessus sur ce régime politique dont l'agonie est très très lente, mais très douloureuse pour la société algérienne, peut-être pas forcément pour les dirigeants. On a également comme représentation une armée omniprésente dans toutes les sphères de la vie politique et économique, et qu'elle est vraiment la colonne vertébrale de l'État algérien. Je rappelle qu'en 1962, c'est l'armée de libération nationale algérienne qui devient l'armée populaire algérienne, et le Front de libération nationale, donc le FLN, qui ont accouché de l'État algérien. Donc cette matrice militaire, elle est absolument fondamentale. Une civilité du régime présidentiel qui est une imposture, puisqu'on sait que depuis 1962, tous les chefs d'État qui sont passés en Algérie ont été faits et défaits par cette armée. Et le dernier en date, élu en plein Hirak, Abdelmajid Tebboune, est certainement le président de la République algérienne qui a été le plus mal élu, parce que l'abstention électorale a été absolument catastrophique. Alors même si on sait que quand les autres sont élus, les élections elles sont toujours truquées et trafiquées, mais alors là pour le coup, l'élection en elle-même en Algérie ne représente plus rien en termes de représentativité. Et puis une société fragile qui peinait à se faire entendre, véritablement un peu inaudible. Et là pour le coup, le Hirak montre une société civile qu'on n'entendait pas avant et qui se déploie dans toute sa créativité, ses expressions multiples et ses forces de proposition. Donc, voilà. Donc ça, c'était les représentations qui dominaient, qui reposent sur des réalités objectives, hein, on est bien d'accord, mais qui ne permettent pas de comprendre la face émergée de... Immergée de l'iceberg, puisque justement, cette société-là est animée par des dynamiques très puissantes et par des forces motrices que le Hirak algérien a permis de voir, peut-être pas de comprendre complètement, mais de voir. Et tous ces éléments dont je viens de parler n'étaient absolument pas couverts par la connaissance, hein, par la recherche en elle-même. On reviendra là-dessus, justement, qu'est-ce qu'est la recherche en sciences sociales en Algérie depuis 1962 et jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas question qu'on travaille ni sur la nature du régime politique, ni sur la question des violences politiques, ni de l'histoire contemporaine. En fait, de cette histoire contemporaine de 1962, elle est totalement absente. On ne peut pas accéder aux archives, puisque les archives sont difficilement accessibles, justement, pour les chercheurs. On ne peut pas faire de l'anthropologie sociale fine qui permettrait d'avoir des enquêtes de grand terrain. Ouais, tout ça, c'était pas possible de le faire et ça l'est encore pas aujourd'hui. Bien, donc, quand on a fait l'appel à communication, donc je me souviens en juillet 2017, la récolte, elle a été vraiment très maigre, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le processus éditorial. On monte un argumentaire, on le valide par Calenda et autres, et on le diffuse sur un... Donc, on fait une grande diffusion, et on a un agenda en disant, voilà, nous recevons les propositions à tel moment, voilà, on fait une feuille de route, et... je me retrouve, en fait, l'équipe et moi-même, l'équipe éditoriale et moi-même, on se retrouve finalement avec une récolte très très maigre. D'abord, quasiment rien, quasiment aucune proposition en sciences politiques, en sociologie politique, bien évidemment, rien en histoire contemporaine, rien en sociologie des phénomènes en fait qui marquent la société, la question du chômage, la question de la délinquance, la question en fait, je sais pas moi, des violences faites aux femmes, en fait des choses normalement voilà, qui sont quand même des grands classiques hein, de la sociologie. Et ces absences et cette maigre récolte effectivement, elles interrogent. Parce qu'on s'aperçoit que les contraintes politiques elles pèsent plus lourdement sur certaines disciplines que sur d'autres. Ah, mais par contre, on a reçu, des choses. Alors, en Algérie, mais pas qu'en Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'est la même chose. La grande mode, en fait, actuellement, c'est la recherche-action. Et la recherche-action, par exemple, sur. On a reçu un nombre invraisemblable de propositions sur tout ce qui était patrimoine. Patrimoine bâti. Alors là, en fait, c'est des étudiants qui ont fait des études d'architecture, vous voyez. Et puis après, si ça fonctionne bien, qu'ils ont envie de continuer comme ça, ils font des doctorats en patrimoine. Et alors, donc, on a tout et n'importe quoi là-dessus. Et ça ne mange pas de pain, hein. C'est, voilà, on observe le bâti, on regarde, voilà, quand on est un peu futé, on va faire une petite... enquête de terrain, mais curieusement, là, alors le bâti islamique, ottoman, etc., mais le bâti colonial, bizarre, voilà. Là aussi, la difficulté à travailler, par exemple, sur l'histoire de l'architecture coloniale française, ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Bon, on a réussi à récupérer quand même un article sur la rénovation du centre historique, du centre colonial de Constantine, voilà. Mais tout ça parce que c'était une étudiante que j'avais rencontrée dans une école doctorale et que je lui dis, mais enfin répondez quand même à l'appel, et donc il m'a envoyé ça, je connaissais un peu son travail. Mais donc, pour le coup, la récolte, elle n'était pas très, 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 très intéressante. Et pour le coup, moi, elle m'a interrogée, et mes collègues aussi, sur les conditions académiques et politiques de production de connaissances dans le paysage universitaire, le paysage de la recherche algérienne. Voilà. Alors, comme on est historien, je suis historienne, et voilà, on remonte un petit peu le cours des choses en se disant, mais pourquoi l'université algérienne, elle est aussi frileuse, aussi méfiante vis-à-vis des SHS, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a des sujets politiquement corrects et d'autres pas possibles. Je vous donne juste un exemple, moi j'avais fait une expérience, c'était en 2016, j'étais encore à l'IRMC à Tunis, et donc on était en convention d'études avec le CRASC, qui est le Centre de Recherche d'Anthropologie Culturelle et Sociale d'Oran, qui est le plus grand centre de recherche en sciences sociales d'Algérie, qui n'est pas Alger, mais qui est Oran, et avec lequel j'avais l'habitude de travailler, qui sont des gens plutôt ouverts, etc. Et on avait un projet via Tunis sur les violences politiques, et donc j'avais proposé de faire, comme ils ont un nombre incroyable de chercheurs, ils sont 90 chercheurs, voilà, bon, la main-d'œuvre était importante, qu'ils n'avaient pas l'air quand même surmenés, on va dire, en termes de burn-out. Et donc, j'avais dit, est-ce qu'il est possible, en fait, qu'on puisse enfin travailler en 2016 sur de faire une enquête à l'échelle nationale, une vraie enquête sociologique, sur le récit ordinaire de la violence, en fait, ce qui s'est passé dans les années 90. Parce que c'est une période qui est assez terrible en Algérie. C'est une période sans images, sans son, sans témoignages. 10 ans, les images elles existent, hein, c'est pas qu'elles n'existent pas, les enregistrements ils existent, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont absolument pas disponibles ni dans le débat de la recherche, ni dans le débat politique. On les a vus réapparaître dans le Hirak. Alors, ça c'était extraordinaire, c'est une histoire de refoulé comme ça dans le Hirak en disant le Hirak a redonné une identité à ces quasiment 200 000 Algériens qui sont morts pendant les massacres, vous voyez, ou les 20 000 disparus. Donc, on s'est dit, il serait peut-être temps, en 2016, si on pouvait imaginer ensemble de faire une grande enquête, comme font les centres de recherche, comme font les grandes institutions nationales, etc., sur recueillir la parole du témoin, et que cette parole-là, et moi j'avais vendu le projet en disant, on pourrait monter ensemble une phonothèque qui permettrait justement d'accueillir ces témoignages-là, et qui pourrait servir par la suite, alors pour le devoir de mémoire, vous savez, on peut plein de choses comme ça, et qui pourrait être une matière extrêmement, extrêmement précieuse, ben, pour les recherches à venir. Mais ça n'a pas été possible. D'abord, parce que quand on a voulu déposer le dossier, vous savez par quel ministère il passe? On a déjà par le ministère de l'Intérieur. Un projet de recherche dans une institution académique, il faut avoir la validité et l'accord du ministère de l'Intérieur. C'est compliqué. Voilà, donc on est toujours en suspension. Et cette mobilisation citoyenne de 2019 a ouvert des brèches justement sur ce moment refoulé de l'histoire post-indépendante de l'Algérie, en fait de la violence d'État indépendant sur sa propre population. Voilà. C'est pour vous dire. Donc, s'interroger là-dessus. Et on se dit, mais pourquoi les SHS sont considérés comme des disciplines de seconde zone? Et en fait, il faut revenir à l'histoire de l'université algérienne et aux politiques publiques en fait, de recherche et d'enseignement dès les années 60, après l'indépendance, hein, donc 62. Il est évident qu'en 62, et puis bon, dès qu'il y a eu les premières réformes de l'université, au tout début des années 70, la priorité était accordée à l'enseignement technologique et aux sciences industrialisantes, clairement. Y compris dans les sciences humaines et sociales. Alors là, les années 70 en Algérie, c'était sociologie du travail, sociologie d'entreprise, sociologie de l'industrie. Quasiment tous les sociologues algériens qui ont soutenu leur thèse dans les années 70, c'est sur ces thématiques-là, liées au travail, à l'industrie, à l'usine, voilà. Curieusement, pas tellement à la main-d'œuvre, à la classe ouvrière, etc. Du tout. Vous voyez ? Donc ça, c'est... Donc cette priorité accordée à ces sciences-là, tandis que d'autres disciplines, comme l'anthropologie et l'ethnologie, qui étaient considérées à l'époque par les dirigeants algériens comme des avatars des sciences coloniales, étaient carrément supprimées du dispositif d'enseignement dans les années 70. Par la suite, on voit dans les années 80, toujours, on poursuit cette dynamique de développement des instituts technologiques et professionnels, et aussi cette dynamique des grandes écoles d'ingénieurs, donc les grandes écoles d'ingénierie. Dans ces années 80, ayant une dynamique extrêmement favorable, si vous voulez, une massification de l'enseignement supérieur en Algérie. Ça, c'est vraiment une politique très très importante. Donc, de cette massification à l'accès à l'enseignement supérieur et au parcours diplômant, et qui a impulsé une politique, je dirais, de gigantisme en termes d'infrastructures et d'effectifs. Aujourd'hui, en Algérie, bon, il y a 43 millions d'habitants, on a 50 universités, il y a 13 centres universitaires, il y a 20 écoles nationales supérieures, il y a 10 écoles supérieures, 11 écoles normales, tous ces dispositifs couvrent l'ensemble, en fait, la totalité du territoire algérien, et avec presque 2 millions d'étudiants, pour 61 000 enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la rive sud de la Méditerranée, l'Algérie est le pays de la rive sud de la Méditerranée qui produit le plus grand nombre de diplômés par année. Voilà. Sur le marché. Je ne dis pas que sur le marché du travail, hein, mais bien d'accord. Mais diplômés. Je me souviens d'une université à Sétif, qui est donc à l'est algérien, à l'université de Sétif, à Al-Abbas 1, il y a le département d'architecture, enfin c'est pas l'école d'architecture, le département d'architecture de l'université. Le président de l'université était très fier en me disant, tout chaque année, l'université de Al-Abbas 1 fournit 200 architectes par an. Wow. Ça c'est juste pour Sétif. Et après, donc quand j'ai essayé d'évoquer la concurrence avec les écoles d'architecture qui sont quand même d'un autre niveau, et puis surtout l'absorption de ces diplômés sur le marché du travail, ça c'est une autre histoire. Donc on est dans cette politique de gigantisme, qui à la fois est inscrite dans une tradition populiste, hein, donc des gouvernements successifs, tous nos enfants vont faire des études et seront diplômés, ça c'est une chose, et qui a été rendue possible grâce aux retombées, bien évidemment, de la rente pétrolière, notamment dans les années 2000, où on a atteint en fait des sommets de bénéfices de la rente pétrolière en Algérie. Alors, bien évidemment, on a un gigantisme qui masque malheureusement les défaillances d'une politique très ambitieuse et qui coûte très cher, très onéreuse. On a un personnel peu qualifié, absence de formation, absence d'évaluation du corps enseignant, une absence d'encadrement des étudiants en master et en doctorat. On a encore des pratiques mandarinales dans les enseignements, dans les directions de master et de doctorat. Bon, ça c'est un grand classique aussi dans la rive sud de la Méditerranée. Voilà, dans les universités publiques, on est encore dans des pratiques très très conservatrices et extrêmement réactionnaires, voilà, du professeur donc à l'étudiant. Ça commence à bouger un peu avec aujourd'hui les concurrences et les rivalités des universités privées. Qui, elles, veulent se mettre sur les standards internationaux et qui sont extrêmement exigeantes et très très difficiles dans la sélection, mais l'Algérie n'a pas d'université privée. Donc ça, elle ne veut pas en entendre parler, contrairement au Maroc à côté, où, je donne juste un exemple, la dernière université marocaine privée qui vient d'être montée, c'est l'université polytechnique Mohamed VI, est une université qui s'est quasiment mise sur les standard des grandes universités américaines, Yale, Stanford, et qui se veut être la plus grande université privée donc, du continent africain. C'est quelque chose d'assez dingue, on va dire ça comme ça, et qui ne souffre pas de problèmes de financement, puisque ce sont les phosphates marocains qui, voilà, qui payent. On dit que c'est le petit bébé du roi Mohamed VI, justement. Voilà. Mais on a des niveaux de recrutement, de sélection, à la fois du personnel encadrant, et cette façon qu'on a de démarcher sur le continent africain pour prendre les meilleurs éléments en termes d'étudiants, c'est assez fascinant comme modèle. Et effectivement, les universités publiques à côté, elles sont là, elles sont absolument, voilà, elles font pas le poids parce que, voilà. Et en plus, ça creuse aussi les inégalités terribles, voilà, entre ceux qui peuvent aller dans cette université et ceux qui n'ont pas le choix et qui vont dans l'université publique. Mais l'Algérie, non, pas de problème, pas d'université privée, donc le problème est réglé à ce niveau-là. Et on est sur des fonctionnements d'université qui s'appuient, ça c'est les vieilles traditions à la fois d'héritage colonial français, mais aussi du modèle socialiste un peu collectiviste des années 60 et 70. On a des logiques bureaucratiques, on a des fonctionnements d'université qui s'appuient sur des logiques bureaucratiques, assez incroyables, et qui s'accompagnent aussi de pratiques corporatistes. Et clientélistes, et les enseignants, comme les doyens ou comme les présidents de l'université, sont plus préoccupés par des promotions politiques et administratives que leur procure la fonction, voilà, au détriment bien évidemment d'une politique pédagogique voilà, de qualité, et puis surtout d'une recherche critique et exigeante. Donc vous voyez que cette université, elle est héritière de ce modèle et a été marquée par le modèle développementiste donc, des années 70 qui sacralise les savoirs technologiques et scientifiques et qui, à l'heure actuelle, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore impulsé les initiatives de valorisation des sciences humaines et sociales, alors que les SHS concernent en Algérie plus de la moitié des étudiants. Voilà, c'est-à-dire plus de la moitié des étudiants qui sont inscrits à la fac aujourd'hui en Algérie sont inscrits dans les sciences humaines et sociale, et elle reste bien évidemment les parents pauvres des autres disciplines. Alors je vous explique un peu, quand un bachelier a son bac donc, en Algérie, quand il doit il veut s'inscrire à l'université, il fait un choix, il y a 12 choix possibles, donc voilà, donc du premier jusqu'au 12e, et je vous donne en mille les trois derniers. Les disciplines, c'est histoire, sociologie, littérature, géographie, enfin voilà, donc c'est absolument pas du tout dans le cursus, dans le modèle de promotion d'un parcours universitaire, les sciences sociales ne sont absolument pas du tout valorisées et n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc, Cette marginalisation des sciences humaines et sociales, donc c'est cette conséquence de la politique technologique des années 70 et 80, comme je vous l'ai dit, mais elle est également le fruit d'une mise à l'écart, d'une marginalisation du pouvoir d'État autoritaire qui est extrêmement méfiante à l'égard d'une recherche académique, autonome et critique. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, les sciences sociales, elles portent un peu le stigmate des sciences coloniales. Et aussi, alors bon, pour ceux qui sont un peu coutumiers des formules en arabe, c'est l'appartenance au Hizb Fransa, c'est-à-dire Hizb Fransa qui est le parti de la France. C'est-à-dire que l'idée, en fait, l'idée que l'on se fait de certaines disciplines, donc de savoir, d'études, d'analyse, sont imprégnés de cette représentation-là, justement, d'un héritage colonial, et aussi peut-être de se mettre dans un clan politique qui est celui du messager de la France, de l'Algérie colonisée, et cette espèce de stigmate porté, il est très très intéressant, et vous verrez bien, parce que Hizb Fransa, ok, parce que pendant longtemps la sociologie est enseignée en français, mais que toutes les SHS aujourd'hui, elles sont toutes arabisées en Algérie. Elles sont toutes passées effectivement elles ont toutes fait l'objet d'une politique d'arabisation, une arabisation, comme disait un collègue, Gilbert Grand-Guillaume, il parlait d'arabisation idéologique, et qui instaure au sein de l'université une fracture dramatique entre arabophones et francophones. Alors, les SHS sont toutes passées par l'arabisation, mais curieusement, les écoles d'ingénierie, les instituts technologiques, les universités de médecine n'ont jamais été concernées par la politique d'arabisation telle qu'elle a été pratiquée sur les SHS. Donc on est dans une forme de géométrie variable. Le français est considéré soit comme la langue du colonialisme, pour les SHS, soit comme langue de formation et d'enseignement, notamment à l'international, pour les sciences dites dures. Donc, on voit bien là aussi, bon, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, qui sont très intéressants, sur l'ambivalence de la question linguistique, qui est toujours d'actualité et qui perpétue ce que une collègue dans les années 75, Christiane Souriau, elle disait, cette ambivalence de la question linguistique souligne le dualisme qui postule arbitrairement que l'arabe soit cantonné dans les humanités et que le français soit l'instrument des sciences et de la modernité, car la politique d'arabisation, elle n'a pas été conçue comme un processus linguistique producteur de savoir, de formation, mais comme un processus de défrancisation. C'est pas tout à fait pareil. Et ça a été dramatique, en fait, pour l'université algérienne. Absolument dramatique. Parce que s'il y a bien quelque chose que la France coloniale a réussi en Algérie, c'est une instauration d'une francophonie puissante, réellement, et qui était appropriée par toutes les élites. Les élites algériennes colonisées, et ce qui aurait dû être ce que Kateb Yassine, un grand écrivain algérien d'expression française, aurait dû être un butin de guerre, disait le français, la langue française est un butin de guerre, ce qui aurait dû être un butin de guerre valorisé, annexé, a été martelé, pilonné systématiquement et curieusement uniquement dans ces sciences sociales et humaines. Qui sont supposés être des sciences sociales et humaines, de formation, mais d'esprit critique, de distanciation, de production d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc on a une algérianisation, une arabisation de l'université qui s'est faite très tôt dans une forme de dans cette espèce de défrancisation un peu revancharde, on va dire ça, voilà, mais très sélective, très très sélective, voilà. Au détriment d'un bilinguisme qui aurait été vraiment, je dirais, la ressource fondamentale de la société algérienne post-indépendante, mais aussi que cette défrancisation, elle a sonné, je dirais, ça a été une espèce de sentence d'une mise à mort de la langue arabe comme langue de recherche et de pouvoir. Et ça, c'est dramatique. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, quand on nous dit « Ah, mais moi j'ai fait des études d'histoire », c'est une catastrophe de dire. J'ai fait littérature arabe. Les gens, ils pouffent, ils rigolent. Et quand, malheureusement, quand ils font leur choix pour les études supérieures et qu'ils sont pris nulle part et qu'ils se retrouvent à faire ça, c'est vraiment un déclassement absolu dans la société. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Et Mohamed Ben Rabah, Gilbert Grandguillaume et d'autres collègues, il y a des travaux incontournables sur cette question-là. De quelle recherche on parle? De Nantes, on en est arrivé que ce livre, c'est un peu le prétexte de parler de tout cela. En fait, le dernier état des lieux de la recherche en sciences sociales qui a eu lieu en Algérie, c'est en 2008, qui a été publié par le CRASC, donc ce fameux centre dont je vous ai parlé, donc à Oran, donc le Centre de Recherche d'Anthropologie Culturelle et Sociale. Et cet état des lieux, en fait, il avait fait l'objet, il était intitulé « L'Algérie, 50 ans après, état des savoirs en sciences sociales et humaines ». Alors, je vous laisse quand même apprécier la fin du titre. Alors, c'était en fait pour le 50e de l'indépendance de l'Algérie, donc 2012. Mais en 2008, il y avait ce colloque-là, donc, qui a été organisé. L'Algérie, 50 ans après, état des savoirs en sciences sociales et humaines, 1954-2004. Je vous laisse apprécier la chronologie. 1954, c'est le déclenchement de la révolution algérienne, de la guerre de libération nationale. Et on se dit... C'est quand même intéressant. Voilà, ils n'ont pas mis état des savoirs depuis 1962, c'est-à-dire ce que nous, État indépendant et souverain, nous sommes arrivés à produire. Non, donc voyez comment les confusions et l'idéologie mettent leurs pattes, justement, même dans un titre. Et donc, cet ouvrage, cet état des lieux fait, voilà, un peu comme celui-ci en fait, c'est-à-dire on fait un peu, on s'arrête deux secondes et on fait le point de ce qui a été écrit, depuis. Bon, je passe donc sur cette chronologie quand même qui vous dit, qui est en fait une chronologie officielle et militante, ça n'a rien à voir avec une chronologie mise en place dans le cadre d'un projet de recherche où on retravaille justement les dates, les temporalités, etc. Donc, et dont la pertinence scientifique, donc on doute de la pertinence scientifique, bien évidemment. Et cet état de recherche fait l'inventaire, je dirais, de thèmes et objets récurrents d'études. Voilà. Et là aussi, il y a des choses très intéressantes hein, dans cet état des lieux, mais... Cet ouvrage fait l'économie d'une réflexion critique, mais totalement, voilà, là aussi, de la science politique, de la sociologie politique, d'une histoire anthropologique, d'une histoire de ce qui est la socio-histoire, totalement. Et vous n'avez, dans ce travail-là, en fait, c'est un peu une caricature, parce qu'on retrouve aussi des universitaires algériens qui ont, en fait, remisé des articles, en fait, qui ont remisé des chapitres de Barthès et là-dedans. Et curieusement, ce travail, il a l'air vieilli, il a l'air, en fait, parce que, bon, vous êtes étudiant, mais vous savez que les savoirs vieillissent, les savoirs s'usent, et les savoirs... C'est pour ça que la recherche, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle est en permanence en train de faire bouger les lignes, de faire bouger les acquis en permanence. Et là, on est pour les 50 ans donc, de l'indépendance algérienne, on a quelque chose qui est complètement figé un peu. Voilà. Mais elle existe, cette recherche-là. Mais en fait, elle pas... Voilà, elle donne pas envie, quoi. Je veux dire, elle n'est pas très, très stimulante. Pas très stimulante. Bon. Alors que... On a affaire à des universitaires qui détiennent un réel savoir-faire, vraiment, voilà, qui ont fait des études extrêmement fécondes, riches. Je pense à un sociologue que j'aimais beaucoup, et à son âme, il est parti trop tôt, Adel Fawzi, Et en fait, Adel Faouzi, dans les années 80, il a fait tout seul une enquête absolument dingue à l'échelle du territoire algérien. Et il est passé d'est en ouest, du sud au nord, et il est allé interroger les gens. Lui travaillait sur des questions de parentalité, de parenté, des transformations de la famille algérienne, et dans lequel il mettait en fait une curiosité très forte sur les rapports de genre entre époux, les questions de sexualité, mais des choses jamais on aurait pu imaginer un seul instant. Et il y a 180 heures d'enregistrement que nous on a récupéré à la phonothèque de la médiathèque de la MMSH, donc la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. Et en fait, c'est son épouse un jour qui est venue il y a quelques années. Voilà, il est mort en 89, donc ça commence, voilà, il y a plus de 30 ans. Et son épouse, qui est en Algérie, est venue les amener dans une église, elle les a apportés, elle les a pas apportés au crasque, elle les a pas apportés, elle les a déposés et leur a dit, je vous les remets, pour moi ils sont entre des meilleures mains là-dessus. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça, ça interroge aussi, ça veut dire que nous, en Algérie, nous n'avons pas d'institutions qui permettent justement de centraliser ces données extraordinaires, voilà, et qui permettent surtout de les mettre au service de projets de recherche, de collègues qui voudraient travailler là-dessus. Ça, c'est absolument dramatique. Elles ont atterri ici en France, à Aix-en-Provence. Donc, pour moi, je trouve ça absolument désolant et consternant. Et quand vous écoutez, quand on rentre dans les enregistrements, c'est incroyable. Je veux dire, la recherche sociologique telle qu'elle se faisait à l'époque, elle était absolument exceptionnelle. Voilà, hyper compétent, le type savait très bien cette capacité à faire parler les gens, à faire dire des choses. C'est absolument admirable. Donc, pour tous ceux qui parlent arabe algérien et qui veulent travailler sur les questions de sexualité, de parentalité et d'effet de genre, vous avez un fonds absolument magnifique à la MMSH. En Provence. Voilà. Tout ça pour vous dire que le savoir-faire, il existe, mais cette personne-là a pu travailler seule, et cette question-là, justement, de sexualité, de conjugalité, etc., n'a pas pu être intégrée dans un projet de recherche institutionnel, parce que c'était pas possible. Je vous redis juste une chose, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, j'étais dans une école doctorale, aussi, c'était juste avant le Hirak, à Oran, voilà, avec des collègues qui étaient là, et une des doctorantes qui est Mouta Hashiba, donc qui est bon, voilée, etc. Et puis un voile un peu tristouné, hein, c'est pas un voile glamourissime, un voile tristouné, etc. Et donc quand on faisait le tour comme ça, elle disait, moi je travaille sur la sexualité des jeunes Algériens. Donc il y a eu une espèce de silence absolu. Et elle a dit cette chose extraordinaire. Et donc elle expliquait comment elle a eu un mal fou pour trouver, donc elle était sociologue, pour trouver un directeur ou une directrice de thèse. Parce qu'à chaque fois qu'elle arrive, déjà, ce qu'elle envoie comme signaux, elle, c'est... Donc elle est catégorisée immédiatement de quelqu'un, effectivement, qui ne va peut-être certainement pas travailler sur des questions pareilles. On est bien d'accord. Et elle expliquait qu'à chaque fois, on lui disait, et pourquoi vous voulez travailler sur des choses comme ça? Et elle répondait à chaque fois cette chose magnifique. C'est pour ça que les ressources de ce pays sont extraordinaires. Et moi, ça me fait du bien quand j'entends parler de choses, parce que des fois, on lâche un peu l'affaire, mais on se dit, ah non, quand même, il y a encore de la ressource. Et elle disait, je veux travailler sur quelque chose que tout le monde fait et dont personne ne parle. Voilà. Et elle a soutenu sa thèse il n'y a pas longtemps, mais sa directrice de thèse, elle a trouvé une femme. Et pas un homme, donc on va suivre. Il a fallu qu'elle se batte auprès de l'école doctorale, donc de l'université, pour qu'elle puisse soutenir. Et ça a été un parcours de combattant pour trouver des membres du jury, pour trouver des membres de jury qui viennent justement valider ce travail-là. Donc vous voyez que ça ne va pas du tout. Enfin, je vous donne ces éléments-là pour vous dire en fait que ce constat-là, il est toujours d'actualité aujourd'hui, et un grand nombre d'universitaires et de chercheurs algériens s'accordent à dire que finalement les sciences humaines et sociales ne sont en débat qu'auprès des mêmes groupes d'initiés et des mêmes réseaux académiques, et que en fait la circulation des idées entre ces petits réseaux de recherche et le monde universitaire, voilà, il est extrêmement limité. Parce que nous avons affaire à des directions d'université ou des présidences d'université qui sont extrêmement frileuses et qui sont au garde à vous et qui ont complètement intégré une forme d'auto-censure en se disant « Surtout, on ne fait pas beaucoup de bruit, etc. » Tu te souviens, Daniela Semage, notre collègue, qui avait une collègue qui travaille justement, qui est architecte de formation et qui travaille sur les questions de patrimonialisation, notamment d'histoire du patrimoine juif en Algérie. Pour qu'elle soutienne sa thèse, ça a été, elle a été bloquée pendant 5 ans, parce que travailler sur le judaïsme algérien n'est pas politiquement correct. Parce que il n'y a pas de juifs en Algérie, le judaïsme algérien, ça n'existe pas. Et donc, il y a une espèce de cécité mentale sur cet objet d'étude et de crispation et de résistance qui est quand même là aussi l'objet même d'une étude et l'objet même. Pour moi, c'est un cas clinique. Voilà. On n'a pas les mêmes résistances en Algérie, en Tunisie ou au Maroc sur ces questions. Et donc, du coup, la question de la réflexion critique, de l'innovation dans les thématiques de recherche, elle ne concerne qu'un tout petit noyau, et il n'y a pas d'impact, justement, ni sur les enseignements, ni sur la diffusion des idées, ni sur la publication de ces travaux-là. Et ces collègues-là qui travaillent sur ces questions-là, souvent se font publier ou diffusent leurs idées à l'étranger, voilà, soit en France, soit dans d'autres pays européens. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est la question de l'implication des savoirs scientifiques dans les enjeux de société. Cette implication, elle n'est pas visible du tout. Je ne sais pas si vous regardez en ce moment, quand vous écoutez la radio en France, systématiquement, pour chaque phénomène de société, on fait venir un spécialiste ou un intervenant, chercheur au CNRS, professeur à l'université, ma maître de conférence, de chercheur à l'IRD, voilà. C'est-à-dire que ce savoir-là, il est sollicité par les médias, par les dirigeants politiques, etc., pour le décrypter, pour l'éclairer, mais aussi un savoir qui peut être aussi une force de proposition, une force d'initiative d'un certain nombre de choses. Bien évidemment, les chercheurs et les universités algériens, dans leur domaine d'expertise, ne sont jamais conviés justement à la porter, cette expertise, et ne sont jamais sollicités ni à la décision globale, ni encore moins à la décision politique, on est bien d'accord. Voilà. Donc cette, la nature du régime politique algérien, et ça fait l'objet d'une autre séance, et ce serait très intéressant de savoir à quel point il résiste actuellement, cette espèce de résilience, entre guillemets, on est bien d'accord, de résistance du régime algérien face à des convulsions de la société algérienne. Cette endurance est quand même très intéressante à décrypter, mais la nature même de ce régime politique, et puis les épisodes de l'histoire qui ont marqué la société algérienne depuis l'indépendance ont contribué, mais alors vraiment profondément, à nourrir de la part des différents pouvoirs politiques en place une méfiance, mais une méfiance têtue donc, à l'égard de la recherche en SHS. Et je terminerai, j'ai encore 3 minutes, est-ce que je peux encore ? Voilà, encore 3 minutes. C'est que l'histoire récente, l'histoire des années 90, avec son cortège de drames, n'a fait qu'exacerber cette situation, puisque l'université dans son ensemble a subi de plein fouet les effets de la violence qui s'est abattue sur la société algérienne, et on a la fuite d'une grande partie de l'intelligentsia académique vers la France quand elle est, ou l'Amérique du Nord quand elle est francophone ou anglophone, ou vers les pays du Golfe quand elle est arabophone. Les plus grands archéologues algériens, les plus grands sociologues algériens, on les retrouve dans des universités à Dubaï, à Koweït, etc. Et donc cette fuite de l'intelligentsia académique, bien évidemment, en plus que l'université elle a été paralysée pendant près de 10 ans, ont produit en fait une désaffection généralisée qui a conduit en fait à un fonctionnement à minima de l'institution dans une position de repli. Et la sortie de crise et la normalisation, on voit bien à quel point cette sortie de crise, cette normalisation peine à à effacer voilà, les fractures et les blessures. Et c'est par hasard qu'on a mis par la suite des moyens colossaux qui ont été investis dans la modernisation de l'université, voilà, au profit du gigantisme, mais au détriment donc de la qualité. Et c'est vrai, et je terminerai là-dessus, que le Hirak algérien du 22 février a impulsé un basculement des représentations et des discours complètes, je veux dire, qui impactent le positionnement des sciences sociales jusqu'à présent, qui était un peu silencieuse, un peu timide. Et en fait, il y a eu très peu de... d'analyse, de décryptage immédiatement après le Hirak, parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas de quoi se... Il n'y avait rien à se mettre sous le bras, il n'y avait rien à se mettre sous le coude. Et c'est pas hasard qu'après 2019, je pense que le Hirak algérien est une des contestations collectives, une des contestations du monde arabe, les mieux couvertes par les vidéos, par les enregistrements, parce que ça a été filmé par les manifestants eux-mêmes. Une expression incroyable, c'est-à-dire que les Algériens qui n'ont pas parlé pendant 60 ans, ben, presque 60 ans, ils se sont mis à parler, à raconter, à dire un certain nombre de choses. Et ça, c'était assez extraordinaire, qui peut s'expliquer aussi par l'absence d'images d'enregistrement et d'expression des années 90, qui a été dans la mémoire algérienne, la mémoire collective, un véritable... Il y a un vide. Il fallait combler le vide et on a un foisonnement d'informations. Et en deux ans, je crois qu'un nombre incroyable de numéros spéciaux, de revues, d'ouvrages, etc. sur les Hirak algérien, je ne sais pas, il y a une centaine de choses. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on est parti de quasiment rien. C'est-à-dire moi, je me suis fatiguée à essayer de trouver des choses comme ça. Aujourd'hui, ces disciplines de sociologie politique, d'anthropologie, en fait, d'histoire sensible, etc., où on n'arrivait pas à voir des choses, le Hirak a débloqué justement cette situation-là qui était paralysée et par la surinformation, que nous avons. Et je pense que cette surinformation du Hirak, cette réappropriation de l'espace public, met aujourd'hui au défi les chercheurs des sciences sociales des SHS et les SHS en Algérie. Face au Hirak, elles sont obligées de faire elles-mêmes leur propre Hirak, on va dire ça comme ça. Parce qu'on ne peut plus travailler aujourd'hui en SHS, en histoire, quelles que soient les disciplines des sciences sociales et humaines, comme on le faisait avant 2019. C'est plus possible, parce qu'on a tout sur place, voilà. On a tout sur place, l'information elle est là, la matière elle est là. Et on découvre surtout une société qu'on croyait atone, qu'on croyait traumatisée, qu'on croyait dépolitisée. Ce qu'on a vu pendant les mobilisations, on voit une société éduquée, jeune, extrêmement inventive, créative, plurilingue, puisque les banderoles elles étaient en arabe algérien, en arabe fusha, en français, en anglais, en tamazight. Enfin, il y a cette société-là qui était totalement inaudible, s'est révélée dans toutes ses composantes les plus complexes, hein, parce qu'il y a l'enchantement effectivement de cette découverte, mais aussi on voit une société qui est beaucoup plus complexe qu'on croit. Et bien évidemment, travailler sur l'Algérie aujourd'hui, on ne peut plus travailler aujourd'hui comme on travaillait en 2019. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.
Merci.